L'invité politique ce soir, c'est Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue sur le plateau d'ITélé. On va faire un point, est-ce que vous avez vos parrainages, vos promesses de parrainage du moins?
Nous y travaillons et on y travaillera jusqu'au bout. Voilà.
N'êtes pas inquiète?
Je suis confiante parce qu'on avance comme en 2012, donc j'ai été effectivement candidate en 2012, donc je suis effectivement confiante.
Alors à gauche, il y a déjà Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Benoît Hamon, Yannick Jadot. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup de candidats? Est-ce que vous envisagez de vous rallier à l'un ou l'autre?
Vous auriez même pu rajouter Macron, hein, parce qu'apparemment, on ne sait pas tellement où il est. Donc écoutez, moi de toute façon, cette gauche gouvernementale, hein, Hamon, Macron, Jadot... puisque c'est le parti d'Europe Écologie Les Verts, ont quand même gouverné ensemble. Là, ils se présentent séparément, c'est un peu leur problème, je dirais. Hein. Moi, dans cette campagne, je vais mettre en avant les intérêts des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des salariés, des chômeurs, de tous ceux qui travaillent dur pour gagner pas grand-chose. Et je crois que je serai la seule, justement, à me placer de ce point de vue-là.
C'est un peu ce que dit Jean-Luc Mélenchon aussi, par exemple.
Mais la grande différence avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que je ne me pose pas, moi, en sauveur suprême. Voilà, je ne fais pas de promesses électoralistes. Je dis au monde du travail qu'on ne s'opposera pas au licenciement ou au bas salaire avec la 6e République. Hein, on n'imposera pas au patronat d'embaucher ou d'améliorer les conditions de travail en combattant les traités européens. Le combat est à mener contre le grand patronat, contre cette classe capitaliste qui domine dans tous les grands groupes et qui a une seule et même politique depuis maintenant des décennies et des décennies. C'est pour augmenter ses dividendes versés aux actionnaires. Eh bien, c'est de supprimer des emplois, c'est de licencier, c'est de bloquer les salaires, c'est d'augmenter le temps de travail, c'est d'aggraver les cadences. Et ça, c'est vrai dans quasiment toutes les entreprises, y compris des grands groupes qui sont prospères, qui ont battu des records de bénéfices. Moi, je pense, par exemple, en ce moment, au groupe PSA. PSA a réalisé 2,5 milliards de bénéfices sur les 18 derniers mois. Et la direction ose proposer aux ouvriers 0,8% d'augmentation de salaire, d'augmentation générale. Voilà. Alors, c'est scandaleux et c'est ce qui se passe dans quasiment tous les grands groupes, mais y compris dans le public. Vous voyez, c'est aussi cette politique-là. Donc, effectivement, moi, je suis candidate et je serai la seule à placer les intérêts des travailleurs, nos emplois, nos salaires, nos retraites, avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant la fortune de cette minorité de très riches.
Ça ne semble pas véritablement séduire les électeurs. Vous avez fait 0,5% des voix en 2012. Vous êtes crédité à peu près du même score d'après nos sondages quotidiens. Quel est votre objectif pour cette élection?
D'abord, vous me parlez des sondages. Vous savez, aujourd'hui,
2012, c'était un
personne ne sait que je suis candidate. Donc tant mieux, je commence à être un petit peu invitée et petit à petit j'espère que ma candidature sera connue. Voilà. Donc maintenant...
Vous voulez faire mieux qu'en 2012? Vous pensez faire mieux qu'en 2012?
Bien sûr, j'espère. J'espère toujours faire mieux. Mais vous savez, ce qui me distingue aussi de tous les autres finalement, c'est que moi, je ne rêve pas à l'Élysée. Voilà, je ne rêve pas à Matignon. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi.
Mais alors pourquoi vous vous présentez, quitte à éclater encore un peu plus la gauche?
Alors, je vais y venir. Non, mais encore une fois, éclater la gauche, elle s'éclate toute seule. Elle n'a pas besoin de moi pour s'éclater. Et je tiens quand même à préciser aussi que Lutte ouvrière, hein, nous n'avons pas appelé à voter pour François Hollande. En 2012, nous étions les seuls à dire qu'il ferait une politique pro-patronale, qu'il ne fallait sûrement pas faire confiance dans ses beaux discours. Donc, si vous voulez, là-dessus, on a toujours conservé cette même ligne. Mais pourquoi suis-je candidate? Eh bien, justement, pour que tous ceux qui veulent exprimer tout le mal qu'ils pensent de cette société capitaliste, tous ceux qui veulent dire qu'ils ne croient pas dans cette comédie électorale, qu'ils savent que finalement, rien ne changera pour eux, parce que c'est comme ça à chaque élection, mais qui tiennent quand même à affirmer, justement, leurs intérêts, leurs droits. Et moi, je tiens, effectivement, dans cette élection, à dire, oui, les travailleurs, les chômeurs, les exploités, ils ont des droits. Et même, en réalité, leurs droits devraient passer devant les intérêts justement de cette classe là qui est minoritaire et qui s'en met aujourd'hui plein les poches. Donc voilà, moi dans cette élection,
ils font quoi vos électeurs?
Ah non, mais ne me parlez pas du deuxième tour. On ne connaît pas encore qui sera candidat au premier tour. On ne sait même pas si Fillon le sera, vous voyez.
Alors justement,
donc ne me parlez pas du deuxième tour. C'est au premier tour que l'on peut s'exprimer, que l'on peut défendre ses idées. Et moi, j'appelle les travailleurs à se faire entendre au premier tour.
François Fillon, il doit être présent au premier tour pour vous ou il est disqualifié?
La droite, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils font ce qu'ils veulent.
Mais votre opinion par rapport à cette affaire, Pénélope?
Ce que je pense, c'est que les révélations sont accablantes. Voilà, qu'il est disqualifié, en tout cas aux yeux des classes populaires. Parce que là, on parle de 900 000 euros pour sa femme, on parle de 80 000 euros pour ses enfants. Mais vous voyez, 900 000 euros, un ouvrier, une aide-soignante, une employée ne les gagnera jamais pendant toute une vie de travail. Et quand on le voit dire que c'était légal, on mesure qu'il ne comprend pas le problème. Il ne comprend pas que justement, c'est une insulte en fait pour pour les salariés, pour les chômeurs, parce que justement, eux, ils galèrent. Ils galèrent pour trouver un boulot, ils galèrent quand ils sont au boulot pour être bien payés. Hein, et là, Fillon nous dit, mais j'avais le droit, je pouvais, etc. Bon, vraiment, c'est révélateur d'un monde bourgeois qui considère que tout lui est dû, que c'est normal, que finalement, voilà, ils sont très bien payés, qu'ils peuvent inviter leurs femmes à mettre effectivement la main dans le pot de confiture. Voilà, c'est ça la réalité de cette affaire.
Qu'il soit candidat ou qu'il soit remplacé, c'est la même chose pour vous?
C'est le problème de la droite. Mais je pense qu'effectivement, vous savez, les travailleurs, les chômeurs, ils avaient quand même compris, ne serait-ce que dans le programme que Fillon a avancé, les 500 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique, cette idée qu'il fallait supprimer les 35 heures, qu'il fallait supprimer l'ISF, c'est-à-dire encore faire des ponts d'or à la bourgeoisie, que Fillon n'était pas dans leur camp. Et c'est ça aussi qui est très marquant dans cette affaire-là, c'est qu'à la fois Fillon prêchait les sacrifices, prêchait le recul finalement de la condition ouvrière, et puis de l'autre côté, lui, eh bien voilà, il s'en mettait plein les poches. Donc c'est ce décalage-là qui est inacceptable et je crois qu'il le disqualifie.
Dans l'actualité, les manifestations de soutien à Théo qui ont dégénéré tout le week-end à Bobigny, nuit de violence, 37 personnes interpellées, 11 autres arrestations à Argenteuil. L'opposition désigne le gouvernement qui est responsable du fait que la situation est dégénérée pour vous.
Alors d'abord, la manifestation à Bobigny, elle était très digne. C'est une manifestation familiale et vous savez, l'émotion...
Il fallait l'autoriser ?
Mais bien sûr qu'il faut l'autoriser. L'émotion, le sentiment d'injustice est immense dans les quartiers populaires, immense. Et moi, je les partage. C'est scandaleux. C'est insupportable ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, cette agression, elle a été faite pour blesser, elle a été faite pour humilier. C'est un acte raciste. Et je crois que c'est l'ensemble de la jeunesse qui s'est sentie agressée
Est-ce que ça justifie
Théo.
Ces violences, ces voitures incendiées, ces vitrines brisées?
Je tiens aussi à dire que là, il s'agit de grappes de jeunes, d'une minorité de jeunes qui agissent effectivement ainsi, qui expriment leur colère ainsi. Je ne pense pas que ce soit le bon moyen. Je pense que ça rime à rien. Je pense que c'est même très injuste pour les habitants des quartiers populaires concernés. Voilà. Mais en même temps, il faut quand même avoir en tête que les pyromanes dans cette affaire, c'est bel et bien ces quatre policiers qui ont agressé Théo. Soupçonnés. Alors là, c'est pareil, si vous voulez. Vous savez, il y a des centaines de milliers de jeunes, de moins jeunes dans les quartiers populaires, qui attendent une condamnation claire. Et net.
Premier ministre a promis que justice serait faite.
Mais on nous dit que ce n'était pas intentionnel. Mais attendez, comment une telle blessure peut-elle ne pas être intentionnelle? Et les injures racistes, c'était non intentionnel aussi.
Mais moi, je suis pour viol, quand même.
Mais j'espère qu'elle va aboutir vite, parce que c'est cela aussi qu'attendent beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Et vous savez, y compris quand on... Aujourd'hui, il y a des syndicalistes de la police qui sont montés au créneau en disant qu'il faut une présomption d'innocence pour les policiers. Mais quelle présomption d'innocence a été appliquée à Théo? Et pour tous ces jeunes qui sont en bas de leur immeuble, qui s'arrêtent de discuter avec leurs copains, qui passent, il n'y a aucune présomption d'innocence pour eux. Tout de suite, on les accuse d'être des voyous, d'être des dealers, d'être des délinquants. C'est ça la réalité. C'est effectivement des contrôles en permanence, c'est un délit de faciès permanent. Donc c'est toute cette colère-là, aujourd'hui, bien sûr que là, on a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Les banlieues sont devenues le nouveau thème de la campagne présidentielle, à votre avis?
Bien, ce serait une bonne chose, effectivement, que les classes populaires qui habitent dans ces quartiers, qui sont au chômage, mais qui travaillent aussi beaucoup, qui travaillent dur, qui sont les ouvriers, qui sont les intérims, qui travaillent dans les entreprises de nettoyage, dans les entreprises de surveillance, s'expriment, disent effectivement leurs besoins, protestent contre cette société. On est dans dans une société où il y a deux mondes. Hein, on parlait de l'affaire Fillon, là. Vous savez, le fils de M. Fillon, Charles Fillon, avait 22 ans quand il a eu droit à ce poste d'assistant parlementaire. Et il touchait 4 800 € par mois. 22 ans, le même âge que Théo, justement. Exactement le même âge. Mais voilà, Charles Fillon, lui, hein, bah, c'est la jeunesse dorée. Il avait ce passe-droit, il avait ses privilèges. Aujourd'hui, il est avocat d'affaires. Je suis quasiment sûre qu'il va toucher en un an plus que ne touchera peut-être jamais Théo toute sa vie.
Mais il y a aussi en banlieue des zones de non-droit où la police ne peut pas intervenir, n'ose pas intervenir, où il y a aussi des endroits où c'est compliqué de faire régner l'ordre en France. Vous
êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, c'est vrai, c'est une réalité. Et en même temps, ça n'excuse pas non plus que juste cet amalgame qui est fait systématiquement contre tous les jeunes habitant ces quartiers-là.
Alors, je recevais tout à l'heure Karl Aderholt, qui est historien et qui a écrit « La gauche est morte, vive la gauche », et qui a une question pour vous, donc je m'en fais le relais. Il vous demande, est-ce que vous avez vu que le monde a changé et comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette évolution du monde ?
Le monde a changé. J'ai
l'impression que vous représentez une gauche un peu archaïque, disons, pour reprendre son terme.
Oh, bah écoutez, l'archaïsme, pour moi, c'est de voir qu'il y a une minorité qui possède beaucoup, beaucoup de richesses, qui les accapare. C'est de voir qu'il y a aujourd'hui en France 21 milliardaires qui possèdent l'équivalent des 25 millions les plus pauvres en France. Ça, c'est de l'archaïsme. Hein. L'archaïsme, c'est d'entendre ces grands PDG qui s'en mettent plein les poches, expliquer aux ouvriers qu'il faut qu'ils travaillent encore plus, qu'ils aient encore moins de pauses, qu'ils aient encore moins de jours de repos. C'est ça, l'archaïsme. Et la modernité, ce serait au contraire, eh bien, qu'on répartisse le travail entre tous, qu'on se partage les tâches, qu'on prenne sur les profits, sur les richesses qui existent dans la société pour augmenter les salaires. Dans mon programme, je dis qu'avec moins de 1 800 € par mois, c'est très dur de joindre les deux bouts. Donc la modernité, ce serait ça. Ce serait effectivement qu'il n'y ait pas un seul chômeur. Ce serait qu'il y ait du travail, un salaire pour tous. Parce qu'effectivement, un travail et un salaire, c'est la dignité. Ce serait que les salaires soient augmentés et qu'on puisse en vivre tous. Qu'on n'ait pas à compter le moindre euro. Qu'on ne se retrouve pas coincé le 5 du mois. Ça, ce serait la modernité.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Merci d'avoir été l'invitée politique d'ITélé ce soir. Reste avec nous tout de suite. C'est la météo avec Loïc Roosevelt.